Saint Jean, on se demande un peu pourquoi il faut préciser chaque fois que l'on parle de Thomas que son nom signifie jumeau. Bon, une fois qu'on l'a entendu, ça va, on a compris. Je crois que si Thomas le précise, c'est parce que pour lui, ça veut dire quelque chose de précis. Et je crois que c'est une invitation à nous reconnaître en Thomas. Si Thomas signifie jumeau, c'est que c'est notre jumeau. C'est que c'est nous qui sommes appelés à nous voir dans cet apôtre Thomas. Un peu d'ailleurs comme Jean fait avec lui-même. Quand il parle de lui, il dit l'apôtre que Jésus aimait. S'il ne cite pas son nom, c'est pas uniquement par modestie, je pense. C'est aussi pour laisser en quelque sorte la place en creux pour que nous puissions prendre cette place. C'est nous aussi l'apôtre que Jésus aimait. Voilà une invitation, je crois, à rentrer dans l'Évangile, personnellement. Alors, qu'est-ce que fait Thomas ? Il va faire l'expérience du Christ ressuscité. Et je disais à Pâques, je crois que c'est la grande œuvre du temps de Pâques, de notre temps de Pâques, mais même on pourrait dire la grande œuvre de toute notre vie, c'est de faire l'expérience du Christ ressuscité. Et comment est-ce qu'on peut faire l'expérience du Christ ressuscité ? Bien, c'est d'abord l'initiative du Seigneur. C'est lui qui se manifeste. Mais nous savons que c'est aussi ce qu'il souhaite faire, lui. Nous savons que lui essaye. Alors nous devons nous poser cette question, comment est-ce que nous pouvons être ouverts à cette expérience de sa présence que lui, de son côté, n'en doutons pas, souhaite faire. Et quels sont les lieux où nous pouvons particulièrement faire cette expérience du Christ ressuscité? Cette expérience, le Seigneur peut la provoquer n'importe où. Pensons à Saint Paul, sur son cheval, en train de galoper pour aller persécuter des chrétiens, et d'un coup, une expérience du Christ ressuscité qui va bouleverser complètement sa vie. Bon. Ceci étant, ça n'est pas la voie la plus ordinaire. Je crois que dans tous les évangiles et toutes les lectures même du temps de Pâques, nous voyons le Christ ressuscité se manifester à ses apôtres, se manifester à ses disciples. Et nous devons essayer d'y découvrir comment est-ce que le Christ continue encore à se manifester à nous. Vous voyez, quand Saint Jean dit « Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. » Je pense qu'il ne nous explique pas simplement qu'il a assisté à beaucoup d'autres choses avant l'ascension et que, comme il n'avait pas la place, il n'a pas pu tout écrire. C'est aussi une façon de nous dire que ces signes, ils continuent aussi. Ils continuent encore maintenant et qu'ils ne sont pas contenus dans ce livre. Mais le Seigneur continue à nous faire signe. Voilà. Alors, où est-ce que nous pouvons rencontrer le mieux le Christ ressuscité? Je crois que dans la liturgie de la parole d'aujourd'hui, il y a une indication assez forte du dimanche comme le lieu par excellence où le Christ ressuscité se manifeste. Vous avez peut-être fait attention à cette petite note aussi de Jean, toujours, juste au début de l'Apocalypse, au début de la révélation qu'il a reçue lui-même. Voilà ce que nous dit Jean. « C'était le jour du Seigneur. Je fus inspiré par l'Esprit et j'entendis derrière moi une voix puissante, pareille au son d'une trompette. Elle disait, etc. » C'était le jour du Seigneur. Voilà. Saint Jean, qui a reçu lui aussi cette révélation un peu étrange, en tout cas extraordinaire, de l'Apocalypse, c'est le jour du Seigneur qu'il l'a reçu. Et puis, surtout dans l'Évangile, nous voyons comment ce sont les disciples qui sont réunis le soir du premier jour de la semaine, c'est-à-dire aussi le soir du dimanche, qui vont avoir cette apparition du Christ ressuscité. Et puis, à nouveau 8 jours plus tard, donc 8 jours quand on compte le dimanche et le dimanche après, ça fait 8, donc c'est à nouveau le dimanche suivant qu'ils sont réunis, et c'est là à nouveau que le Christ ressuscité va se manifester. Comment dire plus fortement qu'il y a une présence particulière du Christ ressuscité ce jour qui est réservé, qui est au Seigneur, ce jour qui est le jour du Seigneur, hein, d'ailleurs dimanche, ça vient encore de là, domini, dominical, domini c'est le Seigneur, hein, quand on parle du repos dominical, c'est le repos du Seigneur. Comment nous dire plus explicitement qu'il y a une présence particulière du Christ ressuscité dans ce jour du dimanche. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le Seigneur ne peut pas se manifester, on ne nous dit pas que pour saint Paul c'est un dimanche, mais en tout cas qu'il y a là une présence particulière du Christ ressuscité. Je crois que c'est important le dimanche matin, quand on se réveille, de se dire « aujourd'hui il y a une présence particulière du Christ ressuscité dans ma vie ». Comment veut-il vivre cette vie avec moi, cette journée avec moi, je ne sais pas, mais y être ouvert en tout cas. On voit aussi comment cette présence du Christ ressuscité, elle est particulièrement forte quand les apôtres sont là réunis. Nous savons que quand 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur, il est là, présent. Mais particulièrement quand cette réunion, elle prend place le jour du Seigneur, indication de notre Eucharistie dominicale. Et je trouve même très, très révélateur que, d'une certaine façon, le premier dimanche, il manque quelqu'un. Le premier dimanche, il manque Thomas, c'est-à-dire nous tous précisément. Et il va falloir attendre le dimanche suivant pour que Thomas soit là, présent. Mais peut-être qu'il manque encore du monde, et il va falloir attendre encore le dimanche d'après pour que les autres Thomas soient présents. Et ça peut continuer jusqu'à la fin des temps. Vous voyez comment nos dimanches, avec les Eucharisties dominicales, ils sont un appel à une complétude. Il manque du monde. Il y a encore des tas de gens qui ne sont pas là, et qui sont appelés aussi à être là. Et c'est la présence du Seigneur ressuscité là qui d'une certaine façon appelle à cette présence. Parce que toutes ces personnes ont besoin aussi de faire cette expérience du Christ ressuscité. Voilà, alors premier lieu de présence particulière, lieu d'expérience du Christ ressuscité, le dimanche, l'Eucharistie dominicale, le rassemblement de la communauté chrétienne. Deuxième lieu, je crois, qui nous est indiqué aussi par cet évangile et aussi par la liturgie et par toute la tradition de l'Église, même si cette tradition elle est assez récente, c'est Jean-Paul II qui a souhaité que ce dimanche soit le dimanche de la miséricorde. Il a été très marqué par ce mystère de la miséricorde de Dieu, au point de dire la miséricorde, c'est l'autre nom de Dieu. C'est le fruit, par excellence, de la croix, de la mort et de la résurrection. C'est la miséricorde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'on n'a encore pas tiré tout ce qu'il faut tirer de cette intuition de Jean-Paul II, qu'il a d'une certaine façon scellé de son autorité pontificale, hein, en déclarant cette fête dimanche de la miséricorde dans l'Église universelle, ce qui est quand même pas rien, hein, comme acte, et d'une certaine façon, ce qu'il a scellé lui-même de sa vie, puisque vous savez qu'il est mort la veille de cette fête. Alors on n'en a encore pas tiré tout, il y a encore des théologiens qui se réunissent pour réfléchir à ça. Il me semble que cela attire un peu notre attention sur ce sacrement, qui est par excellence le sacrement de la miséricorde, qui est le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Vous voyez, on a pris l'habitude de se confesser avant Pâques, et c'est une bonne habitude pour pouvoir vivre pleinement de Pâques. Mais le danger, c'est de donner au sacrement de pénitence, dans le sacrement de pénitence, l'importance surtout à notre action à nous. C'est nous qui allons faire un effort pour aller nous confesser. Alors que dans le sacrement de pénitence, comme dans les autres sacrements, mais peut-être là particulièrement, le premier qui fait la démarche, c'est le Seigneur. Et voir le sacrement de pénitence comme un fruit de Pâques, je trouve que c'est beau. C'est beau de redécouvrir le sacrement de pénitence comme étant d'abord une source de grâce. Tous les sacrements, nous dit la théologie, les pères de l'Église, coulent d'une certaine façon du côté transpercé de Jésus. Mais c'est particulièrement vrai du sacrement de pénitence. Alors, on pourrait faire un peu un parallèle entre l'Eucharistie, fêté spécialement le Jeudi Saint, et pourquoi pas le sacrement de pénitence, de réconciliation, de la miséricorde de Dieu, fêté spécialement le dimanche après Pâques. Est-ce qu'il faudrait mettre nos 24 heures du pardon là? Je ne sais pas. Faudrait réfléchir un peu plus. Mais en tout cas, je trouve, moi, intéressant de nous dire, à l'heure actuelle, on sent bien le côté festif de l'Eucharistie. Or, chaque année, la liturgie nous rappelle que l'Eucharistie a été instituée juste avant le Vendredi Saint. Ça nous rappelle aussi que l'Eucharistie, c'est le Christ qui donne sa vie dans cet acte de la Passion. Ça nous dit, l'Eucharistie, c'est pas juste une fête, c'est aussi le sacrifice du Christ. Ça nous rappelle qu'il y a dans l'Eucharistie un poids de don de soi du Christ. Voyez, le simple fait que le Jeudi Saint soit collé au Vendredi Saint. Inversement, dans le sacrement de la réconciliation, on voit souvent ça comme quelque chose d'un peu pénible, d'un peu dur, d'un peu sacrificiel pour nous. Et c'est vrai, c'est toujours difficile d'aller se confesser. Mais le fait qu'il nous soit indiqué là, par la liturgie, par l'évangile aussi, tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis, etc. Dans la lumière de Pâques, je crois, nous invite à retrouver le côté festif, au contraire, de ce sacrement. Vous voyez, il y a toujours un peu ces deux faces dans les sacrements. Mais c'est important de retrouver que le sacrement de pénitence, certes, ça nous demande une démarche un peu dure, mais d'abord, c'est l'initiative du Seigneur qui nous offre son pardon, et en plus, ça a un côté festif, la réconciliation, un côté de joie. Moi, j'invite toujours les enfants qui font leur première confession à fêter cela. Alors, plus exactement, j'invite leurs parents à fêter la première confession de leur enfant. On fait un petit repas ou quelque chose au moment de la première communion, au moment de la confirmation, etc. Mais il faut le faire aussi au moment de la première confession. Il faut célébrer ça, il faut fêter ça. Voilà, c'est un moment extraordinaire, un moment de grâce. Voilà. Alors, premier lieu de rencontre du Christ, d'expérience du Christ ressuscité, l'Eucharistie dominicale, et même le dimanche plus largement. Deuxième lieu de rencontre, le sacrement, les sacrements en général, mais particulièrement le sacrement de la miséricorde de Dieu. N'attendons pas forcément les 24 heures du pardon de l'année prochaine pour vivre de ce sacrement de la miséricorde de Dieu. Profitons-en dans le temps de Pâques. Et puis, dernier lieu, pas le dernier que je veux vous signaler, mais un troisième lieu où nous rencontrons le Christ ressuscité, c'est quand nous sommes nous-mêmes acteurs de miséricorde. C'est quand nous sommes nous-mêmes capables de pardonner, de donner et de pardonner, et n'attendons pas forcément des choses difficiles à pardonner. Pardonner, ça veut dire donner au-delà d'un obstacle. Ça veut dire faire ce geste de chaque jour nous réengager dans une attitude de don. Quand on vit en famille, quand on vit en communauté, quand on vit dans une association, etc., sans arrêt on a à se dire « Allez, je recommence, je cherche à savoir ce que je vais pouvoir faire pour les autres, donner. » C'est épuisant. Chaque fois, il faut recommencer, il faut retrouver la motivation pour refaire cela. Oui, mais la motivation qui nous est donnée, c'est de savoir qu'alors, nous sommes nous-mêmes présence du Christ ressuscité. Recevez l'Esprit Saint, tout homme à qui vous remettrez les péchés lui seront remis. C'est en étant soi-même dans la miséricorde, dans la dynamique de la miséricorde, eh bien, nous sommes à ce moment-là animés de l'Esprit du Christ ressuscité. Nous sommes en quelque sorte comme des antennes là qui sont capables de capter cette présence du Christ ressuscité et d'en être nous-mêmes les contenants, les vases, fragiles certes, comme dira Saint Paul, mais les réceptacles de la présence du Christ ressuscité, en tout cas par son esprit, mais aussi par sa puissance. Vous pourrez relire la première lecture, qui est très belle, où on voit Saint Pierre guérir sous la porte des colonnades de Salomon, exactement comme Jésus l'a fait un peu avant. Il faudrait remettre en parallèle ce passage de l'Évangile. Et on lui amène des malades, des gens qui sont souffrants, tourmentés par des esprits, et il va les guérir exactement comme le Christ, sauf que le Christ, on cherchait à toucher son manteau, tandis que là, c'est l'ombre de Pierre qui va les guérir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est pas Pierre lui-même qui va guérir, mais c'est l'ombre, elle nous renvoie au soleil, à celui qui éclaire Pierre. Et qui est-ce qui éclaire Pierre ? C'est le Seigneur ressuscité. Je crois que par cette petite mention, là, Saint Luc, le rédacteur des Actes, nous montre bien que Saint Pierre devient lui-même un réflecteur de la présence du Christ ressuscité, un réflecteur de la puissance du Christ ressuscité. Eh bien, c'est nous tous qui sommes appelés à l'être. Alors, vous voyez, n'imaginons pas uniquement l'expérience du Christ ressuscité comme quelque chose qui nous est donné, mais aussi comme quelque chose que, d'une certaine façon, nous pouvons susciter par notre propre acte, nos propres actes de miséricorde. Le jeudi saint, on a chanté « Où sont amour et vérité, Dieu lui-même est présent ». Ça ne veut pas dire que l'amour est Dieu. Dieu existe, il est amour. Mais ça veut dire que chaque fois qu'on pose un acte d'amour, on permet à Dieu d'être présent. Eh bien, le sommet, la perfection de l'amour, c'est ce qu'on appelle la miséricorde. C'est-à-dire être capable de donner, même s'il n'y a pas de retour, ou pas de retour tout de suite. D'être capable de donner sans cesse, de donner sans arrêt. Voilà. Eh bien, je crois que nous pouvons essayer de méditer cela dans notre semaine, de nous dire, voilà, où est-ce que je peux porter le Christ ressuscité ? Où est-ce que je peux être moi-même réflecteur de la présence du Christ ressuscité ? Eh bien, partout où je serai capable d'être source de miséricorde, source de pardon, source de don, source de paix. Amen.